Bonjour à tous.
Rue des Écoles. Louise Touret.
Partir, revenir, repartir, les histoires scolaires ne sont pas toujours linéaires. Le lien peut être brisé, c'est ce qu'on appelle le décrochage scolaire. Mais des adolescents et de jeunes adultes arrivent aussi à renouer avec les études ou l'étude et le plaisir d'apprendre. Malgré des crises, parfois les histoires scolaires finissent bien. À l'heure où l'institution scolaire et à travers elle la société demandent aux élèves de penser à leur avenir professionnel dès le collège, de s'engager dans un parcours d'orientation au lycée puis dans Parcoursup, alors que le changement de direction dans les premières années d'études est assimilé à l'échec à l'université, nous allons nous demander ce soir ce que racontent les sorties de route scolaires, ce qu'on a pris l'habitude appelé donc le décrochage et les parcours scolaires hors normes. Que nous enseigne-t-il de l'école qui pourrait permettre de l'améliorer ? En fin d'émission, un roman qui se déroule à l'école et une écrivaine, Delphine de Vigan, qui dit que l'école a été pour elle un lieu de paix. C'est la leçon de choses de Sophie Beaubert que l'on retrouve à 17h50. Le décrochage scolaire, ça a été un grand sujet pour l'école. Que faire de tous ces décrocheurs? On les chiffrait à 150 000, ils seraient passés à 110 000. On va s'intéresser aujourd'hui au raccrochage scolaire et plus globalement au parcours scolaire atypique. On va s'y intéresser avec trois invités. Frédéric Wexler, bonsoir.
Bonjour.
On a hésité un peu entre les deux. Vous avez été pilote de l'évaluation des politiques publiques sur le décrochage, diagnostic et plan d'action. Vous avez été conseillère de Najat Vallaud-Belkacem sur ce sujet, ainsi que sur l'orientation. Et avec Jean-Paul Delahaye, vous avez publié le décrochage scolaire entre parcours singulier et mobilisation collective, un défi pour l'école, c'est chez Berger-Levrault. Avec nous également Emmanuel Vaillant, bonjour.
Bonjour Louise.
Vous êtes journaliste, vous êtes directeur de la ZEP, zone d'expression prioritaire. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer de quoi il s'agit ?
C'est un dispositif média d'accompagnement des jeunes à l'expression à travers des ateliers d'écriture que nous menons notamment dans l'éducation nationale en lycée avec des journalistes qui font écrire les jeunes pour qu'ils les aident à se raconter et à s'exprimer.
Et une partie de ces récits sont publiés sur le site du journal Le Monde. Enfin, c'est en tout cas là que je les lis, moi. Et une partie de ces récits raconte des parcours scolaires assez atypiques.
Notamment, oui, tous les lundis sur Le Monde Campus, on a un parcours qui est raconté, qui témoigne souvent de problématiques d'orientation, désorientation et des parcours effectivement atypiques.
Et c'est une de mes petites lectures du lundi. J'ajoute que vous avez également publié Bonne nouvelle de l'école. Et ça, c'était à la rentrée chez Elatès. Avec nous également en duplex, Joël Zaffran, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie à l'université de Bordeaux et avec Juliette Vollet, vous avez publié un ouvrage tout récemment, en février, Zadig après l'école. Pourquoi les décrocheurs scolaires raccrochent-ils ? Donc on est bien sur la question du raccrochage. C'est aux éditions Le Bord de l'eau et vous êtes avec nous en duplex depuis France Bleu Gironde. Pour commencer, je crois qu'on peut dire que le récit scolaire a une forme canonique. Cette forme, c'est la scolarité linéaire couronnée par un examen final. Alors si possible, le bac général, c'est une hiérarchie qui existe dans la société. Ça ne veut pas dire que moi, j'y adhère. Et puis des études supérieures auxquelles on aurait pensé avant, si possible, les plus longues qui soient. C'est souvent le parcours de nos élites. Est-ce que c'est pour ça qu'on a du mal à penser le parcours scolaire autrement que linéaire, justement, Frédéric Wexler?
Oui, c'est vrai qu'en France, on a plusieurs difficultés à penser autrement. D'abord parce que on pense non seulement parcours linéaire, mais formation initiale. On a du mal à penser formation tout au long de la vie, parcours. Et donc, il faut non seulement, j'ajouterai à tout ce que vous venez de décrire, il faut en plus le faire le plus tôt possible. Plus on est précoce, et mieux c'est, et plus on fait les études jeunes. Par exemple, un étudiant, l'âge moyen en France, c'est 21 ans. Au Danemark, c'est 25 ans, parce qu'il s'autorise des césures. Donc, c'est vrai que on a beaucoup dramatisé dans notre système tout ce qui était respiration, césure. Et c'est vrai que le mot décrochage, la première chose qu'on essayait de faire avec cette évaluation de politique publique, et on a beaucoup travaillé aussi avec des chercheurs comme Joël Zaffran qui est présent aujourd'hui, c'est de dédramatiser et de montrer qu'il y avait une deuxième chance, une troisième chance, qu'un parcours complexe, ça pouvait être très intéressant et que ça pouvait aider à faire évoluer le système, comme vous l'avez dit. Donc ça, c'était le fait d'être positif, et je rejoins complètement aussi Emmanuel Vaillant, le fait de valoriser tout ce que ces parcours atypiques apportent non seulement à la personne, mais apportent au système, modifie déjà beaucoup l'idée qu'on en a.
On va essayer de voir précisément de quoi il peut s'agir, de donner des exemples. Mais pour rester sur cette notion de décrochage, également sur ce mot et sur l'effet que ça produit chez les acteurs, Joël Zaffran, je crois qu'on peut tout de même pas aujourd'hui affirmer qu'on se dit, une fois qu'un élève décroche, que c'est formidable, qu'il va pouvoir avoir un parcours atypique. C'est plutôt toujours relativement négatif. Comment les jeunes, les adolescents qui sont concernés par ce décrochage, qui décident de quitter l'école, le vivent-ils ?
Écoutez, c'est une vraie question, parce que de deux choses. L'une, soit on appréhende le décrochage scolaire par en haut, c'est-à-dire par les politiques publiques ou la manière avec laquelle le décrochage scolaire est présenté, notamment dans l'espace médiatico-politique, et qui, en règle générale, a traversé une période, comment dirais-je, plutôt sombre en ce sens, où, en règle générale, le décrochage scolaire était plutôt présenté comme un drame, comme un malheur, etc., ce qui est en partie vrai. Mais quand on renverse le problème, comme vous le faites à travers cette question, et qu'on appréhende d'une certaine façon l'expérience subjective de la rupture scolaire, on voit qu'en fait on a des définitions qui sont multiples, et un rapport à l'école aussi qui se démultiplie en fonction des parcours, en fonction des expériences, en fonction aussi du contexte dans lequel la décision de quitter l'école est prise par les jeunes eux-mêmes. Et je voudrais juste rajouter une dernière petite chose, mais en écho avec ce que vient de dire Frédéric Wechsler, c'est qu'il faut aussi prendre quelques petites précautions sémantiques à l'égard de ce terme même de décrochage, en ce sens où il donne aussi l'impression, le sentiment que c'est le jeune qui prend la décision de décrocher, avec le risque de dédouaner de l'école ou la société de sa responsabilité, entre guillemets, dans le fait de quitter précocement l'école. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en sociologie, on préfère parler de rupture scolaire, de déscolarisation, de désaffiliation, plutôt que de décrochage et de décrocheurs, auquel cas on met quelques guillemets.
Alors c'est un mot quand même très efficace, peut-être un peu moins dramatique aussi. La déscolarisation l'était peut-être davantage. Ce qu'on dit moins sur le décrochage, c'est que ça concerne des situations assez variées, des élèves de tout milieu, toute origine sociale. Joël Zaffran.
Absolument, absolument. Notre enquête avec Juliette Vollet a permis de mettre en évidence cet aspect, c'est-à-dire deux choses. La première, c'est qu'on voit que le phénomène est multifactoriel. C'est-à-dire que, première idée importante, le décrochage scolaire n'est pas réductible à l'échec scolaire. Il peut être provoqué par d'autres causes, qui sont des causes économiques, qui sont des causes sociales, qui sont des causes scolaires. Et puis, l'idée aussi que le décrochage scolaire est un processus. C'est-à-dire que cette enquête avec Juliette Vollet a permis de mettre en évidence le fait que parfois, la décision de rompre avec l'école peut trouver ses racines très tôt dans la scolarité. Ce qui d'ailleurs rejoint un certain nombre de travaux plus quantitatifs qui montrent parfaitement, par exemple, que les probabilités de décrocher sont beaucoup plus importantes quand l'élève a redoublé. Alors, en général, c'est cette variable-là qui est la plus prédictive du décrochage scolaire. C'est-à-dire que plus l'élève redouble, plus la probabilité pour qu'il quitte précocement l'école est forte. Du reste, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, comme je le disais tout à l'heure. On sait que les garçons décrochent plus souvent que les filles. On sait que le décrochage est plus important dans les catégories défavorisées que dans les catégories favorisées. Mais, comme vous le disiez, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de situation de décrochage scolaire dans les catégories favorisées. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en règle générale, les catégories favorisées ont plus de ressources et sont mieux, dotées du point de vue un certain nombre de capitaux, notamment culturels, pour pallier cette situation.
Frédéric Wechsler, dans votre ouvrage, vous parlez de décrochage horizontal et vertical, parce qu'il y a une relation évidemment à l'institution scolaire qu'on cherche à quitter, mais aussi à ses pairs, à ses camarades, relation qu'on veut parfois briser et quitter pour s'en émanciper.
Oui, s'en émanciper ou sauver sa peau, parce que c'est vrai que parfois, on peut être tellement mal à l'aise. C'est vrai que horizontal et vertical, et puis surtout, ça se joue à plusieurs, et on peut prendre plusieurs métaphores. On peut prendre celle de la relation, qu'elle soit amoureuse ou d'amitié, c'est-à-dire soit on l'a construite sur des bases solides, cette relation, et quand il y a des turbulences, ça résiste, soit effectivement, le jeune a mal démarré dans le système scolaire, a construit des relations qui n'étaient pas forcément très réconfortantes pour lui, et dès qu'il va se sentir menacé par ses pairs ou par des adultes, il va se sentir en danger. En fait, certains enfants se sentent en danger dans l'école. Et ce qu'on constate par rapport au vertical à l'horizontal, c'est que c'est souvent successif. On va d'abord être en difficulté avec un enseignant ou avec la direction. Et progressivement, l'élève va, ce que Valérie Melin appelle, mettre en place une succession de déliaisons, c'est-à-dire il va rompre tous les liens qui l'unissent à ce qui peut le raccrocher à l'école, que ce soit effectivement les camarades, les enseignants. Et souvent, ça a des conséquences aussi sur le milieu familial. C'est-à-dire qu'on a rarement un enfant, un jeune, un adolescent qui va très très bien chez lui et très mal à l'école, ou le contraire. Donc c'est vrai qu'après, c'est pas hermétique. Donc on a aussi cette... Et ça, c'est très important parce que, si, comme le disait Joël Zaffran, c'est un processus. Donc si on ne comprend pas que la déscolarisation, le décrochage, c'est un processus très long, on va avoir d'autant plus de mal à faire revenir l'élève ou à prévenir le décrochage. Il faut vraiment se dire qu'on peut intervenir à tout moment. La résilience, elle peut vraiment venir à tous les moments du processus. Plus c'est tôt, c'est comme dans la prévention d'une maladie, mieux c'est, mais à tout moment, il n'y a pas de déterminisme absolu. Il n'y a pas un moment, un enchaînement des causes qui va rendre la situation irrémédiable. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et
c'est une bonne nouvelle de l'école, je ne sais pas. Mais en tout cas, se permettre un avenir, même quand on a quitté l'école, évidemment, c'est souhaitable. Emmanuel Vaillant, je me demandais quelle relation on pouvait faire entre le décrochage et l'adolescence. Si ça arrive en fin de collège, au lycée, c'est bien parce que là, les individus sont capables de prendre des décisions, même si on les juge mauvaises, ces décisions. Vous, comment on vous en parle de ces sorties de route, de ces parcours atypiques, quand les jeunes s'expriment eux-mêmes, qu'en disent-ils et quel rapport font-ils avec ce qui peut être peut-être une crise d'adolescence?
Mais justement, ça, c'est en lien exactement avec ce que vous venez de dire, Frédéric Wechsler. On fait pas mal d'ateliers d'écriture avec des jeunes issus qui sont repérés par les missions de lutte contre le décrochage scolaire. Et dans la quasi-totalité des cas, donc on les fait écrire sur des situations dont ils veulent parler. Et spontanément, on se disait, ils vont beaucoup nous parler de l'école. Or, en fait, ils nous en parlent assez peu. Et ils nous parlent de douleurs ou de difficultés familiales, sociales, liées à des relations entre copains ou entre camarades de classe qui se passent plus ou moins bien. Mais ils nous parlent assez peu de leurs difficultés d'apprentissage, etc. Et ce qui nous fait penser, pour répondre à cette question, que finalement, le décrochage scolaire, il est multifactoriel, mais il s'accroche pas forcément d'abord sur l'école. La problématique est pas immédiatement scolaire. C'est un ensemble de facteurs dont ils témoignent, donc ils peuvent nous raconter. Par exemple, je me souviens d'une jeune fille qui nous parlait de son décrochage, quoi, qu'il y avait, en tout cas, qu'il avait décroché en étant renvoyé 5 fois de plusieurs collèges avec des situations de violence. Et en fait, le récit, donc on lui a demandé de nous raconter le récit de ce décrochage. Et très rapidement, elle nous a raconté la relation qu'elle avait avec son père. qui était en fait problématique et que elle se trouvait dans un rapport inversé où, alors qu'elle n'avait que 17 ans, elle se trouvait à s'occuper de son père qui était en dépression, etc. Et donc elle pouvait pas vivre pleinement son enfance dans l'insouciance de l'enfance ou de l'adolescence. Et du coup, on touchait là un facteur qui était évidemment intéressant et important de son décrochage. Et là où nous, on peut se permettre d'agir et on trouve que notre démarche était intéressante, c'est que en l'écrivant, elle pouvait s'exprimer, c'est s'extraire de soi, et elle pouvait mettre à distance cette problématique. Et après, les enseignants nous ont dit que ça allait beaucoup mieux. Ça avait un petit côté miraculeux, pour le coup, de le dire, de le raconter. Il y avait un récit qui était posé et qui était partagé. Et du coup, on se dit, ouais, ça sert à quelque chose, l'écriture. Ça sert à quelque chose que de se raconter en le partageant à d'autres.
Récit qui a été posé hors de l'école. Oui. Ce qu'il faut peut-être aux décrocheurs ou aux élèves en situation de pré-rupture ou de rupture, c'est du temps, des adultes à qui parler, tout ce qu'on n'a pas forcément le temps et l'occasion de faire dans le cadre du collège, du lycée. On sait que les enseignants ont beaucoup de travail et ça va pas changer avec des réformes, un nouveau bac tout récent. Donc comment prendre le temps de s'occuper de ces cas particuliers et douloureux, Frédéric Wexler?
Oui, alors un terme qu'on a beaucoup employé au niveau du décrochage, mais qui le dépasse, c'est les alliances éducatives. Et c'est vrai qu'on voit qu'il faut à la fois des points d'appui comme ceux qui sont décrits par Emmanuel Vaillant et qui sont fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut que les enseignants, les équipes éducatives n'hésitent pas à s'appuyer sur d'autres personnes, mais il y a quand même une responsabilité de l'école forte, d'abord de repérer ce malaise, cette prise de distance, de l'aider, et après de s'appuyer effectivement sur des associations, sur les personnels sociaux, de santé, sur les équipes de sport. Donc l'alliance éducative, elle est fondamentale avec la famille, mais très largement avec tous les points d'appui qui vont être possibles, parce que l'enfant est une personne, l'adolescent est une personne, il n'est pas qu'un élève. Et c'est là où je pense que sur ce sujet, on a beaucoup progressé. Comme il est assez consensuel et pas binaire, qui nous a obligés à la complexité, il nous a aussi obligés à raisonner pas seulement dans les murs de l'école, et à se rendre compte qu'on avait besoin les uns des autres, et à raisonner collectivement. Et
Vous parlez de progrès, Frédéric Wexler, vous parlez de la baisse du nombre de décrocheurs. Comment il est calculé, ce chiffre, d'ailleurs?
Alors, il y a deux chiffres.
On est passé de 150 à 110 000.
Même 98 000 à l'évaluation qui avait été faite fin 2016. Mais il y a deux chiffres. Il y en a un qui est européen, parce qu'il permet de comparer les pays entre eux, qui est, alors c'est pas un joli mot, c'est le stock. Les 18-24 ans, qui sont donc pas en formation, pas à niveau 4, etc. Donc celui-là, il est calculé avec un indicateur qui est partagé au niveau européen et comparé une fois par an.
Niveau 4,
donc là, on a beaucoup baissé.
Le niveau 4. 4,
pardon, niveau bac. Ou alors un diplôme qui était avant, vous voyez, le BEP n'existe plus, mais CAP, bac pro, c'est-à-dire avoir une qualification qui permet éventuellement une insertion professionnelle. Donc, il y a une comparaison au niveau européen, il y a un chiffre qui est publié tous les ans, et là, nous avons vraiment beaucoup baissé, puisqu'on était à 620 000 et on est en dessous des 500 000 maintenant, et on est, un petit cocorico fait pas de mal de temps en temps, par exemple mieux que l'Allemagne maintenant, que le Royaume-Uni et tout près de la Finlande. Donc c'est quand même ce pays qui est souvent cité en exemple, c'est pas mal. Et il y a un autre chiffre, les fameux 150 000 qu'on utilise plus souvent parce qu'ils parlent plus.
Et je l'entends encore très souvent,
oui,
ce chiffre.
Oui, c'est le flux, c'est-à-dire c'est les élèves qui sortent tous les ans du système sans cette qualification, sans qualification, sans diplôme. Et donc, effectivement, il était plutôt à 136 000 qu'à 150, c'était un arrondi en fait. Ce chiffre-là, il est calculé à partir de l'enquête emploi, on fait une moyenne sur 3 ans, et donc pendant 10 ans, on a stagné. De 2000 à 2010, c'était vraiment très décourageant, parce qu'il y avait beaucoup d'actions sur le terrain, beaucoup d'acteurs impliqués, et on avait juste l'impression qu'on arrivait à contenir la vague, mais qu'on n'arrivait pas, que c'était quasiment un déterminisme. Ça faisait partie du système. Et donc, c'est ce chiffre-là, suite aux différentes mobilisations, celle de 2010-2011 avec le système d'information, mais comme le disait Joël Zaffran, l'entrée était plutôt le repérage, avec un peu quand même en arrière-fond cette idée de, je vais faire un peu schématique, décrochage délinquant, enfin un risque aussi pour la société. Et progressivement, on a axé plutôt sur la prévention, ce qui fait qu'on a fait baisser le flux, effectivement, et plutôt en se disant, c'est des jeunes qui sont en souffrance, qu'est-ce que ça nous dit de l'école comme symptôme, en quoi ça va faire évoluer, qu'est-ce que ça nous dit à la fois des parcours singuliers et de la mobilisation collective nécessaire. Et donc là, on est bien sur le chiffre, on était en dessous de 110 000 hein, avec l'enquête emploi, je ne sais plus, 96, on devait être à 108 ou 106, et on avait fait une estimation en comparant les deux, c'est un peu technique, les élèves qui remontent dans les systèmes d'information, et on était plutôt en dessous de la barre des 100 000. Mais donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était la première fois depuis des années qu'on a une baisse significative qui correspond en plus à une mobilisation générale. Tous les pays qui ont réussi à faire baisser significativement le flux et du coup le stock après en ont fait un peu une cause nationale. On parlait d'alliance éducative, c'est-à-dire que chacun s'est senti une responsabilité dans une démarche d'ensemble.
Que nous apprend le décrochage sur l'école et finalement peut-être sur la société, Joël Zaffran ?
Alors, le décrochage est devenu un problème récemment. C'est-à-dire que le phénomène a toujours existé. L'école a toujours produit des décrocheurs scolaires. Ce qui, en soi, n'était pas un problème dès lors que la société avait la capacité d'absorber par ses appareils de production ce flux, précisément, d'élèves qui quittaient l'école sans diplôme, voire avec une très faible qualification. Par exemple, quand on regarde les chiffres de l'enquête génération du CEREC, en 1975, le taux de chômage entre diplômés et sans diplôme, eh bien, ce taux de chômage présentait un écart de 10 points. En 2008, l'écart s'est accru et on est passé à un écart de 40 points entre les diplômés et les non-diplômés. Donc, on voit bien, d'une certaine façon, qu'on ne peut pas penser le décrochage comme un problème si on focalise simplement sur l'école et qu'on autonomise l'école sans la réinscrire d'une certaine façon dans ce contexte d'une société, en fait, qui est une société qui, désormais, devient une société de la connaissance et qui est une société qui peine aussi à transformer ses moyens, si vous voulez, d'absorption des jeunes sans qualification, avec une faible qualification. Un autre exemple, les sans-diplômes en 2013 sont moins nombreux qu'en 2010. Donc il y a des améliorations nettes en termes de lutte contre le décrochage scolaire, mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration de leurs conditions d'insertion. Et c'est en cela que ça devient un problème, c'est-à-dire que aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de diplôme entrave sérieusement les possibilités d'entrer de manière convenable, correcte, sereine sur le marché du travail.
Joël Zaffran, sur ce qui fait raccrocher ces fameux décrocheurs, ce qui fait qu'après une sortie de route, on revient dans le chemin des études.
Une hypothèse de travail qu'on avait mis en œuvre était celle-ci. On ne peut pas comprendre les raisons du raccrochage si on ne connaît pas les raisons du décrochage. Et on revient à cette idée de processus dont on parlait tout à l'heure. Et qui fait que, eh bien, tout comme le décrochage scolaire est multifactoriel, eh bien, on se rend compte aussi que dans la continuité des parcours et biographiques, on voit que, du coup, le raccrochage est lui aussi multifactoriel. Par exemple, une des causes qui est apparue, c'est le fait que la confrontation avec un marché du travail tel que celui que j'ai présenté, c'est-à-dire temps partiel subi, salaire faible, conditions de travail difficiles, eh bien, c'est un ingrédient parmi d'autres, de la décision de raccrocher.
Alors, quand on parle de décrochage, on peut parler de désir pour les élèves de reprendre leur liberté. Et quand on parle de ça, moi, ça me fait penser à un film en particulier. Écoutez cet extrait.
Ah, te voilà, toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein ? Et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot.
T'en ai pas, monsieur.
Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami.
Monsieur, c'était ma mère, monsieur.
Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore?
Elle est morte.
Ah, fiche-toi. Excuse-moi, Monty, je pouvais pas savoir. Elle était malade?
Bah oui, monsieur.
Il fallait m'en parler. Faut toujours se confier à ses maîtres. Allez, rejoins tes camarades, là.
Et ce que racontent les 400 coups, c'est non seulement l'irrépressible désir de liberté du jeune Antoine Doinel, c'est un peu aussi la vie de François Truffaut lui-même, transformée un peu dans cette fiction. François Truffaut qui s'est éduqué dans les salles de cinéma après avoir arrêté l'école à 14 ans et bon, qui est devenu voilà le critique qu'on sait, surtout le cinéaste qu'on connaît, un parcours qui montre, alors c'est en 1959, hein, on sait que la société a énormément changé, mais qui pourrait aussi montrer qu'on peut apprendre et s'éduquer hors de l'école. Est-ce que ça, c'est totalement inaudible aujourd'hui, Frédéric Wechsler?
Non, c'est pas du tout inaudible en termes de parcours singulier. Et bien entendu que l'école n'est pas l'alpha et l'oméga et qu'on peut réussir aussi en dehors de l'école. Simplement, le poids du diplôme et de la formation initiale est tellement important pour l'insertion, comme l'a souligné Joël Zaffran, ça peut paraître irresponsable d'ouvrir trop grand cette porte-là. En revanche, ce qui me semble très important et qui va dans le sens du travail fait par Emmanuel Vaillant, c'est que ouvrir les murs de l'école et permettre au moins en tout cas des interactions et valoriser tout ce que l'élève va apprendre en dehors de l'école, ça c'est très important. Lui montrer qu'on n'apprend pas que pendant les quelques heures à l'école, oui, ça c'est notre responsabilité. Et alors les parcours atypiques, il me semble que c'est surtout montrer qu'on continue à apprendre. Après, bien entendu, qu'on ne va pas apprendre non plus que pendant 20 ans ou 25 ans. Et que se former tout au long de sa vie, ça va permettre des tas d'ouvertures. Ça me surprend toujours en France, les gens qui ont par exemple une cinquantaine d'années et qui se présentent en vous disant Polytechnique, enfin c'était il y a 30 ans, voilà, comme si... Et donc, dans ces cas-là, je leur dis toujours oui, et depuis, parce que ce qui est quand même intéressant, de toute façon, c'est le parcours d'une personne. Et c'est ça sur lequel, je pense, il faut d'abord qu'on insiste bien sur deuxième chance, troisième chance. On a des échecs, on surmonte ces échecs. La phrase qu'on a mise en introduction de notre livre, en dédicace, c'est une phrase de Proust, il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Je pense que voilà, c'est ça. Pour réussir, c'est pas forcément facile, mais ça peut être, on peut apprendre dans des tas d'endroits. On va s'appuyer sur nos points forts. Et puis, il n'y a pas d'échec définitif, c'est-à-dire à tout moment, on peut rebondir. Et la responsabilité des uns et des autres, de l'école, mais de l'école avec toutes les bonnes volontés, les partenaires, c'est de donner les points d'appui pour cette réussite. Et puis après, donc, que la personne ait suffisamment confiance en elle, et c'est ce que vous soulignez tout à l'heure, comment il y a des points d'appui pour pouvoir rebondir.
Emmanuel Vaillant, sur cette idée de liberté et peut-être aussi de rupture, de césure dans le parcours scolaire. Tout à l'heure, Frédéric Wechsler parlait du Danemark, parce que c'est un pays où la tradition veut qu'après l'examen qui clôt le lycée, on ait une année de rupture. C'est aussi un pays dont des sociologues ont déterminé que c'était celui où les jeunes étaient le plus heureux en Europe.
Non, mais c'est vrai que nous, quand on le sait, vous l'avez très bien dit, on est dans un pays où effectivement il y a les rythmes de la vie sont supposés très scandés. Il y a un temps de la formation et un temps de la professionnalisation, et comme s'il n'était pas possible de faire des allers-retours entre l'un et l'autre. Il me semble que c'est en train d'évoluer un petit peu. Il y a une tendance à effectivement reconnaître le fait que les parcours atypiques sont des parcours aussi de réussite, et donc de ça, on peut qu'en féliciter. Pour revenir à ce que vous dites sur les alliances éducatives, moi je trouve ça effectivement très important, mais nous, quand on intervient dans les écoles, on a d'une certaine manière le bon rôle. On arrive en tant que journaliste, on va pas les noter, on va juste travailler avec eux pour leur faire publier des témoignages qui seront publiés dans Le Monde, en Libération ou autre. Donc c'est extrêmement valorisant pour tout le monde. Et les enseignants sont souvent un peu surpris de voir ce à quoi on arrive, parce qu'on est évidemment pas dans la même, une question de place, qu'on n'a pas du tout dans le même rôle. Mais ce que je veux quand même souligner aussi, c'est que moi je suis aussi assez admiratif d'un certain nombre de travaux que mettent en place les enseignants pour justement, comme disait le sociologue, il y a le décrochage, c'est avant tout la question de comment faire en sorte qu'ils ne sortent pas de l'école avant de se poser la question de comment on les raccroche. Et il y a un certain nombre dans l'enquête que j'ai faite sur les bonnes nouvelles de l'école, j'ai vu un certain nombre de dispositifs hyper intéressants sur la manière dont, par exemple, on ne va pas d'emblée se poser la question de l'élève est tout de suite un élève. En fait, il faut d'abord le faire rentrer dans l'attention. Donc l'attention, c'est pas comme ce qui est donné. C'est pas, il suffit pas d'ouvrir la porte de la classe pour que tout d'un coup l'élève s'assoie et soit prêt à recevoir des savoirs, et que l'attention, ça se travaille. Donc il y a, j'ai vu par exemple dans des classes coopératives comment l'attention se construit, comment on pose on aide l'élève à poser un état de comment ils se sentent et comment ils se sentent dans leur corps, dans leur tête au moment de rentrer dans la classe, et comment l'enseignant va prendre en compte ça. J'ai vu aussi des choses très intéressantes sur le rythme, comment on prend en compte les rythmes des élèves au fil de, et on comprend en compte par exemple très au sérieux le cycle d'apprentissage, et qu'on se dit il n'y a pas forcément dans l'école élémentaire, il faut prendre en compte le fait que les élèves ne doivent pas forcément tout savoir à la fin du CE1, mais qu'ils ont encore une CE2 pour apprendre, et donc on peut tenir compte du fait que c'est un cycle de 3 ans du CP-CE2 qui fait que donnons un peu plus de rythme à ceux qui en ont plus besoin. De même sur l'hétérogénéité, j'ai vu des choses très intéressantes sur comment on peut faire classe avec des élèves de niveaux très différents. Je me souviens d'une prof d'anglais qui, dans un collège international à Noisy-le-Grand, me disait « Les parents sont très inquiets de voir que j'accueille des enfants bilingues et des enfants qui débutent la langue d'anglais. » Elle dit « Mais mon enfant qui est bilingue va perdre son niveau. » Or, elle s'apercevait qu'il y avait une entraide possible entre ses élèves. Donc, tous ces éléments-là font penser qu'il y a des moyens de lutter contre le décrochage en amont, en intégrant la diversité des publics et la manière de mettre en place des dispositifs qui en tiennent compte.
Alors, moi, ce que je comprends dans ce que dit Emmanuel Vaillant, c'est que l'institution devrait presque faire ce pas d'aller vers l'individu en oubliant un peu l'élève. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre, Frédéric Wechsler? Et est-ce que c'est pas aussi un peu ça que font les structures qui rescolarisent ce qu'on appelle les décrocheurs, c'est-à-dire les micro-lycées, des toutes petites structures un peu plus souples, et d'autres structures innovantes, parmi lesquelles on peut classer le lycée autogéré de Paris ou celui de Saint-Nazaire?
Oui, alors c'est une question très importante, parce que dans les débats idéologiques dont on a le secret souvent en France, on oppose effectivement, ou on a opposé longtemps, l'élève d'un côté et l'enfant ou l'adolescent.
C'est même assez fondateur.
C'est fondateur de l'école de Jules Ferry, qui laissait les parents d'ailleurs à la porte. Ça a sans doute eu un sens à un moment donné, avec la mise en place aussi de l'école laïque. On voit bien que quand on parle maintenant de coéducation, de coopération, chacun a son rôle spécifique, et bien sûr que l'enseignant a plus un rôle, ou l'équipe éducative, sur ce qu'on définirait comme le périmètre de l'élève. Mais il faut qu'il tienne compte absolument et des autres personnes qui vont intervenir, comme les parents ou tous les éducateurs autour, ou les adultes, et de la vie de l'enfant. Donc c'est bien, en fait, c'est pas l'un ou l'autre, on garde les deux, j'allais dire, mais on a bien conscience qu'on est dans quelque chose de plus large. Ça, c'est vraiment fondamental. Pour les micro-lycées, il y a à la fois la souplesse dont vous parlez, qui fait qu'il y a un seuil de tolérance différent dans l'accueil, et puis c'est vrai que c'est la personne dans sa globalité, et que le collectif était fondateur du micro-lycée, c'est-à-dire l'équipe travaillait collectivement. La notion de coopération et de collectif, et puis il y avait même des lieux communs, il n'y avait pas de salle des profs, mais c'était une salle prof-élève. Enfin, donc c'est vrai que ça rebat complètement les cartes, et on voit que ça a eu quand même progressivement des effets au-delà des micro-lycées. La coopération maintenant, je ne dis pas du tout qu'elle a essaimé partout et qu'elle est mise en place, mais en tous les cas, c'est un horizon et c'est un repère maintenant. Et on sait, et toutes les études internationales montrent que, y compris dans les entreprises, même si c'était simplement pour des raisons d'efficacité, la coopération, ça fonctionne mieux. Donc, je trouve qu'on a des convergences entre, et c'est ce qui s'est passé aussi sur le décrochage, entre l'efficacité, voire même l'efficience, l'humanisme, et puis simplement le bien-être. Se dire finalement, on va tous être.
Mais c'est même l'idée qu'on peut apprendre mieux à plusieurs que seul. Même les sciences cognitives arrivent à nous le démontrer. Donc, ça va peut-être apaisser finalement les conflits.
Si les sciences cognitives le montrent, c'était notre débat il y a 2 semaines, la place des sciences cognitives à l'école. J'ajoute que pour en savoir plus sur les micro-lycées, je vous invite, chers auditeurs, à consulter le site de Rue des Écoles. On mettra un lien vers le site de la FESPI, c'est la Fédération des établissements scolaires innovants. On va sortir un peu de l'école. Récemment, un livre a été publié, La révolte des premiers de la classe. C'est un journaliste qui s'appelle Jean-Laurent Casselli. D'ailleurs, on l'a reçu il y a un peu moins d'un an dans cette émission. Révolte qui s'illustre par un décrochage du travail. Des gens qui quittent des emplois qui n'ont plus de sens pour eux, et parfois des emplois bien payés, puisqu'on parle le premier de la classe, des cadres qui décident de se lancer, qui dans l'artisanat, qui aussi, alors ça c'est pas dans le livre, c'est moi qui dis le professorat, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent professeurs des écoles, par exemple, en seconde carrière. Qu'est-ce que ça dit de la société, un monde dans lequel de plus en plus de gens ont envie de décrocher, et là on parle pas de l'école, on parle bien du monde du travail. Joël Zaffran, vous qui êtes sociologue.
Ça dit que désormais les individus trouvent par eux-mêmes les moyens d'exprimer ce que une injonction normative qui est formulée par nos sociétés, c'est-à-dire se construire soi-même et être authentique. Donc ça pose la question du sens. L'exemple que vous prenez, c'est le sens du travail et le sens de l'action par le travail, ce que je suis à travers le travail que j'accomplis. Et on peut parfaitement transposer cette formulation à l'école, c'est-à-dire se poser la question du sens du travail scolaire. Pourquoi va-t-on à l'école ? À quoi ça sert d'aller à l'école ? Dans des entretiens qu'on avait menés, on avait posé ce type de questions à des jeunes en situation de décrochage scolaire. Ce qui apparaissait, c'était, une perte dans la croyance du diplôme. Pour le dire très rapidement, le diplôme, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que on peut être d'accord sur les l'impact objectif, tel que je l'ai énoncé tout à l'heure, l'impact objectif de l'absence de diplôme sur les parcours d'insertion, mais en même temps, on se rend compte que les jeunes ont aussi de bonnes raisons subjectives, d'une certaine manière, de ne plus croire en l'école et de ne plus ou de ne pas accorder au travail scolaire le même sens que les bons élèves accordent.
Emmanuel Vaillant, et ce sera ma dernière question et votre dernière réponse sur ce décrochage aussi des adultes, ces envies de sortir du chemin tracé.
Oui, c'est la question fondamentale, effectivement, du sens de l'utilité sociale que chacun se trouve. J'écoutais récemment François Taddeï qui a popularisé un peu, si je puis dire, en tout cas dans le milieu éducatif, la notion d'ikigai, qui est une notion japonaise qui consiste à trouver son équilibre entre ce que je sais faire, en quoi je veux être utile à la société, combien je veux gagner d'argent. Et quelle est ma place dans la société. Et en prenant en compte tous ces éléments, effectivement, on trouve un équilibre. Et il est légitime que les jeunes et les moins jeunes se posent cette question. Et ça, quels que soient les parcours, nous on a fait pas mal de témoignages de jeunes qui avaient un parcours extraordinairement linéaire du premier de la classe, du CP jusqu'à l'école polytechnique, se retrouver sortant des meilleures écoles, se dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et du coup, marche arrière, rétropédalage, dit bon bah alors en fait, c'est ce qui m'intéresse, c'est le théâtre en fait, c'est là. Et donc voilà, effectivement, cette question de l'utilité, du sens, elle est fondamentale, oui.
La notion d'ikigai, voilà, c'est aussi un livre de Christy Van Breemersch qui vient d'être publié pour mieux trouver sa voie. Enfin, j'ai pas encore lu les références sur vos ouvrages à vous et le lien vers la zone d'expression prioritaire d'Emmanuel Vaillant sur le site de France Culture à la page de Rue des Écoles. On passe à la toute dernière partie de l'émission, la leçon de choses. Et au micro de Sophie Bobert, cette semaine, Delphine de Vigan, qui explique pourquoi elle a situé l'action de son dernier livre, Les Loyautés, au collège.
Cette période du collège, la trouve... Enfin, c'est une période qui m'intéresse particulièrement. J'avais déjà abordé ça, d'ailleurs, de manière très différente dans Noé et moi. Je la trouve difficile, souvent douloureuse pour les enfants. Enfin, pour les enfants qui se transforment, justement. Probablement pour les professeurs. Je pense que c'est un âge qui doit être très difficile à appréhender en tant que prof. Il y a quelque chose qui échappe, enfin, je trouve, à la fois d'un peu ingrat et qui échappe complètement aux adultes. C'est vraiment... un âge où les probablement des souffrances intérieures comme ça se déclarent, se mettent en place, s'installent, qui ne sont pas dites en fait. C'est aussi un âge de silence, je trouve. Autant finalement les choses se disent facilement qu'au moment de l'école primaire, de nouveau peuvent être dites au moment du lycée. Le collège, c'est souvent un moment où les jeunes parlent très peu et parlent probablement plus difficilement à leurs parents.
Et dans quelle mesure peut-on dire, Delphine de Vigan, que votre façon de décrire le collège dans votre nouveau livre peut nous faire penser à un corps avec des bras, avec des replis, avec des cachettes, je pense à la cachette sous le grand escalier, ou avec des zones humiliantes. Et là, je pense au gymnase pour les cours de gym, oui, en particulier.
Oui, c'est vrai, ça tient sans doute au fait, c'est une belle image, je la trouve très juste, ça tient sans doute au fait que ce qui m'intéresse dans mon travail d'écriture, c'est souvent de décrire la sensation plus que le sentiment. Et notamment, ces très jeunes garçons, ils n'ont pas forcément la possibilité de nommer les choses, ils ne savent pas forcément exprimer exactement ce qui se passe, ce qui leur arrive, etc. Donc le ressenti, les sensations, toutes les sensations d'ailleurs, prennent une importance particulière. Et là, j'avais envie de décrire ce brouhaha qui explose tout d'un coup aux interclasses et qui s'apaise d'un coup quand les élèves rentrent en classe. Les odeurs, effectivement, cette cachette qu'ils trouvent sous l'escalier de la cantine et qui leur permet d'échapper de manière inquiétante à la surveillance des adultes. Voilà, je m'attache à décrire vraiment la sensation, de la même manière quand Théo, à un moment donné, se sent vraiment mal, se retrouve tout seul dans les toilettes du collège. C'est à la fois les bruits, les odeurs et ce que j'espère quand je travaille comme ça, c'est que ça va faire naître finalement chez le lecteur ses propres souvenirs auditifs, olfactifs, parce qu'on a tous ça qui est encore très ancré en nous. Ça me frappe de voir à quel point à l'âge adulte, on a encore un souvenir tellement prégnant finalement de nos années d'école.
Et vous, vos souvenirs d'années d'école, votre collège, hein.
Mes années collège, c'était en banlieue parisienne. Je vivais à Bagneux et j'étais dans un collège qui doit encore exister, qui s'appelle le collège Romain Rolland, qui est à la frontière entre Bagneux et Fontenay-aux-Roses. C'est plutôt j'ai des bons souvenirs de cette période. Moi, j'ai plutôt un souvenir de l'école comme un lieu de paix, en fait. Pour moi, c'était à des périodes où les choses étaient plus compliquées dans ma famille. L'école, le collège, le lycée ont été des lieux de paix, en fait. Un endroit apaisé où je me sentais bien. Et en troisième, je me souviens, en classe de troisième, quand j'ai quitté ce collège dont je vous parlais, de banlieue, pour aller vivre en Normandie. Donc, quand ma mère est tombée malade, ma sœur et moi sommes partis vivre assez brutalement, je dois dire, et je me suis retrouvée dans un collège en Normandie. Et là, je me souviens avoir étudié en fin de troisième une vie de Maupassant. Et que ça a été vraiment une révélation, ça a été vraiment un choc. Et puis ensuite, on a étudié probablement en seconde Madame Bovary, que j'ai relue souvent depuis. Voilà, c'était vraiment mes premières grandes émotions littéraires, avec cette découverte que on pouvait raconter, dans les deux cas d'ailleurs, on pouvait raconter une vie.
Et donc, le dernier roman de Delphine de Vigan, Les Loyautés, apparu chez Lattès. Somanina a réalisé cette émission. Myriam Guillot était à la technique à Paris. Julien Collin à Bordeaux. Marie Dalquier est notre attachée d'émission. N'oubliez pas que vous retrouvez Rue des Écoles dimanche prochain à 17h15 et non 17h sur notre antenne. Et quand cela vous chante en podcast. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous sur France Culture.